À qui Jean Paulhan s'adresse-t-il en écrivant « Les fleurs de Tarbes » ou « La terreur dans les lettres » Cet ouvrage sibyllin, publié en 1941, convoque autant la figure de l'écrivain que celle du critique, autant le créateur que le lecteur, pour réfléchir au thème central de l'ouvrage, soit la haine du langage qui affecte le monde des lettres. Il peut sembler d'une importance toute relative de tergiverser sur l'auditoire implicite de ce livre. Les lecteurs de Paulhan savent que ces textes laissent surtout derrière eux une somme de paradoxes et d'ambiguïtés qui se dissipent malaisément, comme si les questions soulevées n'arrivaient jamais à être épuisées. Mais le détour que force à faire cette recherche du lecteur idéal, pour aussi large qu'elle soit, apparaît profitable. Rappelons pour le plaisir de la chose que l'essentiel des Fleurs de Tarbes, de même qu'un très large pan de l'œuvre de Paulhan, porte sur la rhétorique, art de persuader par le discours, par l'éloquence, qui nécessite la prise en compte de cet auditoire que je tente de retracer pour conférer aux paroles leur pleine efficacité. Cette recherche permet aussi d'observer le discours de l'auteur sur le rôle spécifique de la lecture dans les affaires de la cité. Les Fleurs de Tarbes n'est pas un ouvrage qui traite véritablement des questions politiques ou à tout le moins pas vraiment de manière directe. Toutefois, quelques passages, qui passent rapidement de préoccupations littéraires à des préoccupations politiques, permettent de réfléchir, d'abord, à la dialectique complexe entre singularité et sens commun, mais aussi, d'une manière plus souterraine, au pouvoir de la rhétorique et à la liberté du lecteur qu'elle met en jeu. C'est autour de ces nuages que je bâtirai ma réflexion. Avant d'entrer plus avant dans les questions de lecture et de rhétorique, je débuterai d'abord par appeler le propos des Fleurs de Tarbes, à tout le moins tel qu'il se présente initialement. Paulhan dresse le portrait de deux camps, les terroristes et les rhétoricaires. Il commence par dresser le portrait de la terreur qui anime les premiers, un dégoût qui conduit à récuser toute idée courante et tout lieu commun. Elle pousse de même à rejeter ce qui relève d'une technique, de procédé, de convention, comme celle qui était au cœur de l'ancienne rhétorique. De là serait né ce que Paulhan qualifie de maladie chronique de l'expression. Désormais, je le cite, nous ne parvenons guère à parler de romans, de style, de littérature ou d'art qu'à la faveur de ruses et de mots nouveaux qui n'aient pas encore l'air d'injures. Les terroristes sont nommément identifiés et fort nombreux. On trouve parmi eux les romantiques, Stendhal, Rimbaud, Mallarmé, les surréalistes et aussi plusieurs critiques littéraires et penseurs, Sainte-Beuve, Rémy de Gourmont, Henri Bergson. Du côté des écrivains, le paysage correspond à celui défini par la modernité esthétique et littéraire. C'est une même haine du commun et du banal, c'est-à-dire des clichés et des formulations usées qui corrompent le monde poétique, qui permettraient de les regrouper en un ensemble unifié. Pour eux, un mouvement d'épuration restreint toujours davantage le champ des possibles de l'expression. En effet, Paulhan explique, je cite, qu'il s'exerce autour des clichés comme une contagion. Le poète ne s'est pas plutôt privé du ciel étoilé qu'il faut douter du ciel et de l'étoile, assez capable de le rappeler et qui tiennent déjà de lui je ne sais quel reflet déplaisant et fade. Les rhétoriqueurs, eux, paraissent a priori bien plus insaisissables. Il faut dire que les Fleurs de Tarbes les utilisent surtout pour expliciter le défaut de pensée des terroristes que dénonce Paulhan. Les rhétoriqueurs nous parlent d'une époque disparue, celle de Racine, Corneille ou Boileau, celle d'avant la terreur de 1793 et la coupure symbolique qu'a marqué la Révolution française. À cette époque, les rhétoriqueurs, je cite, expliquer avec complaisance comment nous pouvons accéder à la poésie, par quels sons, quels mots, quel artifice, quelles fleurs. Ce sont ces mêmes fleurs, ces mêmes techniques d'écriture qui sont aujourd'hui devenues suspectes, elles qui reconduiraient la banalité des lieux communs et emprisonneraient les écrivains dans un carcan incompatible avec la liberté d'inspiration et de pensée qu'exige la littérature. Pourtant, Paulhan avance que ce serait tout le contraire qui se produirait, que depuis 150 ans, les écrivains ont eu tort et ont répudié ce qui leur conférait cette même liberté qu'ils chérissent tant, soit la rhétorique. Je cite, « L'on peut avoir, de loin, l'impression qu'elle va guider de ses règles la main de l'écrivain, que le retient, en tout cas, de s'abandonner aux tempêtes de son cœur. Mais le fait est qu'elle lui permet, au contraire, de s'y donner sans réserve, libre de tout l'appareil de langage qu'il risquait de confondre avec elle. » En effet, dégagé du désir de purger la langue des lieux communs et de s'éloigner à tout prix des conventions des genres, les rhétoriqueurs peuvent mettre de l'avant des événements, des passions, les choses mêmes qui sont l'objet de la littérature, sans obstacle, je cite, « La prostituée de Victor Hugo tient la déclaration de principe, elle porte message. Mais la princesse n'est à Racine qu'un lieu pur où les passions jouent libres de gêne. » Bien que son livre concerne a priori le monde littéraire, l'auteur précise que la maladie de l'expression qui affecte les terroristes, leur misologie ou haine du langage, mène aussi d'autres sphères de l'existence. Pollan explique, je cite, que le dégoût des clichés se poursuit en haine de la société courante et des sentiments communs. Comme si les états et la nature n'étaient pas tout à fait différents d'un grand langage, que chacun, silencieusement, se parlerait. Ainsi, même ce silence serait langage et langage problématique. Il n'y aurait jamais de lieu où les questions d'interprétation seraient absentes. Pollan précise, j'ai parlé littérature, je parlerai tout aussi bien langage, discussion, cri, aveu, récit à la veillée. L'auteur s'arrête alors brièvement, mais notablement, sur des questions politiques. Les références à la terreur de 1793, celle du titre comme celle faite au tribunal révolutionnaire d'Arras, constituent bien sûr un premier indice. Il ne s'arrête toutefois pas à cette image de la guillotine qui annonce à la fois la démocratie et ses dérives. En effet, un court chapitre intitulé « Un argument politique » décrit les polémiques et conflits qui entourent l'usage de termes auxquels plus personne ne veut croire, de peur d'être dupé par le pouvoir de persuasion, par la magie qu'ils contiennent. Je le cite. « Point de journal ni de gazette qui n'invite son lecteur, une fois la semaine, à séparer la paille des mots avec le grain des choses, qui soupire à propos de guerre ou de paix, d'élection, de chômage, des mots, Hamlet s'est fait journaliste. » C'est que la misologie dégraderait tous les grands mots abstraits, ceux de démocratie, liberté, égalité, les uns après les autres. Dans ce contexte de méfiance généralisée, rien ne serait plus commun que d'inviter au doute vis-à-vis de ces mots puissants, je cite, plus proches des formules du sorcier que de la loi du savant. Pollan se place en détracteur de cette vision des choses qui incrimine les mots, lançant « Le mot de liberté, disait Novalis, a fait des millions de révolutionnaires. Sans doute, tous ceux pour qui la liberté est le contraire d'un mot. » Le problème se trouve certes du côté de ceux qui parlent, mais pas uniquement. Lorsque Pollan veut montrer les errements auxquels on conduit la terreur, il prend en exemple les critiques du 19e siècle qui ont méconnu les uns après les autres toutes les grandes figures de la modernité littéraire, ou presque, passant sous silence Rimbaud, Villiers, Lautréamont, entre autres. Ces écrivains appartiennent au camp de la terreur et n'ont pas été reconnus correctement parce que la terreur de nature paranoïaque teintait aussi le regard du critique. La terreur, au final, romprait tout pacte de lecture. Le mal serait intériorisé par auteur et lecteur au point où il deviendrait impossible de distinguer le rôle de l'un et de l'autre. À ma question de départ, soit à qui s'adressent les fleurs de Tarbes, la réponse paraît être à tous. Chacun s'avère prisonnier d'une terreur qui envahit sa conscience, je cite, « Il n'est pas de lecteur qui ne se laisse vaguement aller en lisant, à l'illusion que poème ou roman pourrait bien être de lui. À plus forte raison n'est-il guère d'écrivain qui ne sache, si même il y répugne, se lire en étranger, prenant tour à tour figure d'auteur et de lecteur, de parlant et de parler. » Pollan n'est pas un conservateur littéraire qui livrerait un plaidoyer pour un retour au mode d'écriture plus classique. Ce n'est pas sans raison qu'aucun rhétoriqueur contemporain n'est nommé. Nous serions tous prisonniers de cette volonté de pureté et de cette méfiance qui définit notre conception des lettres. Comme voie de sortie, Pollan met de l'avant l'idée d'une maintenance, sorte de consensus qui permettrait de rendre communs les lieux communs, c'est-à-dire de dresser des listes des clichés, des règles, des conventions, de les avouer comme telles. Il s'agirait finalement de reconnaître qu'ils sont clichés, car, avance-t-il, les clichés pourront retrouver droit de citer dans les lettres du jour où ils seront enfin privés de leur ambiguïté, de leur confusion. Il est, vous en rendrez compte, plutôt difficile de saisir quel aspect concret cette solution pourrait bien prendre si on se décidait à l'appliquer. Pollan pose qu'à la lecture, les clichés suscitent la répulsion, détiennent un pouvoir négatif. Lorsqu'on ne peut discerner les intentions de l'auteur, si le lecteur n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'une utilisation qui joue de ses clichés, inauthentique ou distanciée, ou si l'auteur a recours à ses formulations en toute bonne foi, naïvement, en y croyant lui-même. Dissiper l'ambiguïté d'essence que prennent ces lieux communs, ce serait dissiper la puissance néfaste des mots. La mention de ce pouvoir négatif, alors que la présence de clichés dans un texte peut sembler davantage une faute de goût qu'un habit de puissance, ramène au fondement de la rhétorique, comme art de persuader, art condamné de multiples fois depuis l'Antiquité grecque pour les manipulations et abus de pouvoir auxquels on affirmait qu'il prêtait. La rhétorique dont parle Pollan réfléchit effectivement à la manière dont les mots agissent, et pas seulement, comme il le paraît initialement, aux conventions d'écriture de la rhétorique comme art de l'éloquence et traité des figures. Seulement, sa rhétorique échappe aux définitions canoniques. Elle prête aux mots une influence souterraine, diffuse. Ce n'est pas sans raison qu'un essai de Pollan publié dans les Temps modernes s'intitule « La rhétorique était une société secrète ». La rhétorique qu'il met en place agit non pas sur le plus grand nombre, mais sur quelques-uns. Pourtant, l'appel à la maintenance se confond dans ce contexte avec un appel à une revalorisation du sens commun. Un appel à la fondation d'une rhétorique positive dans laquelle on pourrait s'entendre sur le sens des mots pour les entendre sans méfiance. Cet appel ne surprend guère compte tenu de la place que le jugement du premier venu, c'est un terme qui revient souvent, prend dans les écrits de Pollan. Il va à contre-courant de l'opinion qui veut, je cite les fleurs de table, que le sens commun n'émet guère que de basses sottises. Il semble dans un premier temps que le plaidoyer pour la rhétorique soit lisible comme un appel à ce raisonnable, ce vraisemblable qui la fondait traditionnellement. Toutefois, l'écriture de Pollan est loin d'évoquer des idées de clarté, de reposer sur une logique raisonnable. Elle est tout sauf limpide, multipliant les cas d'ambiguïté, exigeant un travail d'interprétation soutenu de la part du lecteur. Michel Meyer, dans Littérature et langage, avance, je cite, « qu'il y a dans l'idée de rhétorique quelque chose que l'on pourrait qualifier de dimension intersubjective, la distance entre les sujets et l'objet de la rhétorique, dès lors qu'il s'efforce de la négocier par le discours. » Si, comme l'indique Meyer, la rhétorique serait une manière de négocier la distance entre les individus, il faut admettre que le mode d'assertion de Pollan tient à distance son lecteur en ne rendant jamais claires ses intentions. Le temps me manque ici pour une observation détaillée du mode d'écriture de Pollan et des jeux de pouvoir singuliers entre lecteur et auteur qu'il instaure. Voyons néanmoins quelques exemples de la manière dont l'énonciation du texte détruit tout sens figé et en cela confère une importance considérable à l'acte interprétatif. La dernière phrase des fleurs de Tarbes, « Mettons enfin que je n'ai rien dit », en constitue une démonstration frappante et célèbre. Elle annule tout ce qui a été énoncé préalablement dans l'essai, tout en laissant planer par le « mettons » qui ouvre l'affirmation, la possibilité que cette réfutation même ne soit pas trop à prendre à sérieux, à la fois un accord entre auteur et lecteur pour relativiser l'effort du premier, et une allusion au silence imposé par cette erreur dont il est question tout au long de l'ouvrage. La courte introduction agit de manière similaire. Trois brefs paragraphes sont consacrés à nier toute affirmation qui puisse expliciter le propos du livre, ce mystère de la poésie des lettres convoqué en première phrase. Pollan précise en effet par la négative en enchaînant rapidement que « ce n'est rien éclairé qu'évoquer ici la magie ou l'extase, ce n'est rien dire précisément que parler d'ineffable, ce n'est rien avouer que parler de secret ». De même, continue-t-il quelques lignes plus loin, le poète se rend d'autant mieux au mystère qu'il s'y refuse lui-même. Le tout culmine par une phrase qui révèle que rien de ce qui forme l'essence du livre n'était, au fond, d'intérêt pour l'auteur même. Je le cite, « Ce n'est pas de tels problèmes, tant s'en faut, que j'agitais quand j'entrepris cette étude. Il m'eût paru prétentieux et vain de m'y attaquer. Au demeurant, la littérature pose, de nos jours, mille questions plus urgentes, la misère, la solitude, l'excès. » Il va sans dire que ce sont pourtant ces problèmes auxquels il serait vain de s'attaquer qui forment l'essentiel des fleurs de Tarbes. C'est donc tout le propos du livre qui est mis entre parenthèses par l'auteur, grâce à cette introduction et à cette conclusion, qui paraissent volontairement réduire la portée de ce qui a été démontré. Cette forme d'écriture contamine aussi toute la rhétorique du livre. Une phrase rapporte « Et qui pourrait tolérer, se demande un jeune homme, de ne pas être écrivain ?» Il trouve son contraire deux pages plus loin, et chaque jeune homme s'étonne que l'on puisse être écrivain. Les fleurs de Tarbes reposent sur une dialectique qui mise sur l'énonciation d'une chose et son contraire. Malgré la fausse simplicité du ton de Pollan, quelque chose dans les résolutions des oppositions laisse une place prépondérante au jugement du lecteur, à son expérience d'appréhension du texte. Rien de plus louvoyant, donc, que le mode d'écriture de Pollan, ce que ne manquent pas de souligner les commentateurs de l'œuvre. Maurice Blanchot, dans le court essai qu'il consacre aux fleurs de Tarbes, « Comment la littérature est-elle possible ?», débute son texte par la description de son expérience de lecteur et par les difficultés d'interprétation que lui a posées le livre. Son sens, avoue-t-il, lui échappe toujours en partie. Il raconte ainsi, « Le livre dont on vient de s'approcher, est-ce bien le véritable ouvrage qu'il faut lire? Ne serait-il là que pour cacher ironiquement un autre essai, plus difficile, plus dangereux, dont on devine les ombres et l'ambition? Il serait vain de croire que Jean Pollan livre jamais ses secrets. C'est par le malaise qu'on éprouve et l'anxiété qu'on est seulement autorisé à entrer en rapport avec les grands problèmes qu'il étudie et dont il n'accepte de montrer que l'absence. » Blanchot enchaîne avec son analyse du texte, qui met l'accent sur la contradiction inhérente à tout acte d'écriture, celle pour l'écrivain d'être pris en la condamnation au silence, ou de se résoudre à céder à une illusion, celle que dévoile Pollan, soit que l'écrivain ne donne naissance à l'art que par une lutte aveugle et vaine contre lui, que l'œuvre qu'il croit avoir arrachée au langage commun et vulgaire existe grâce à la vulgarisation du langage vierge. Pollan, pour la petite histoire, a affirmé dans une lettre à Julien Benda, « Je ne pense pas qu'il vienne à l'esprit d'aucun lecteur sérieux de juger sur ce qu'en a dit Pollan. » J'ai les fleurs sur ce qu'on a dit. Ma phrase n'a aucun sens. Je ne pense pas qu'il vienne à l'esprit d'aucun lecteur sérieux de juger les fleurs sur ce qu'on a dit Blanchot. Pardon. C'était bizarre, sinon. Sans qu'on ne puisse mesurer sa sincérité, évidemment, s'agissant de Pollan. Benda lui-même, dans la phrase byzantine, a déploré que Pollan, cite, paraisse souvent par son style atteint de la maladie qu'il dénonce, la misologie, et que, je cite encore, sa thèse se devine plutôt qu'elle ne se voit. Blanchot concentre ultimement son analyse du texte de Pollan autour des possibles de l'expression pour l'écrivain. Toute la première partie de son essai, toutefois, faisait la part belle à son expérience de lecteur et au rôle que lui confère Pollan. Il ne s'arrête cependant pas vraiment sur la manière dont Pollan démontre lui-même l'importance du lecteur par son écriture même et sur la manière dont ce mode d'écriture nourrit et complexifie la réflexion des fleurs de Tarbes. Enfin, il l'aborde plus rapidement. La critique l'a fait par la suite et on a souvent noté la nature performative des écrits de Pollan, qui était fasciné par les proverbes et par leur pouvoir de varier en signification selon les situations. Ses essais insistent sur l'événementialité de tout acte de lecture, sur la production du sens, tant dans leurs propos que dans leur forme. Si cet aspect, donc, a été creusé par la critique, les significations politiques de ce mode d'écriture demeurent ambiguës. Un exemple, quelque peu grossier, l'illustre. Anna-Louise Milne a, dans sa thèse portant sur la généalogie du concept de lieu commun chez Pollan, mis au jour les liens existants entre la pensée de Pollan et celle de Paul de Man, qui a été un lecteur assidu du premier. Bien sûr, l'écriture de Paul de Man a fort peu à voir avec celle de Pollan, elle est beaucoup plus linéaire, et leurs positions respectives dans le siècle sont absolument incomparables. Le parallèle que dessine Mal n'est pourtant pas sans intérêt. Il n'est pas besoin de rappeler que la découverte des écrits de jeunesse antisémite et collaborationniste de Paul de Man ont entaché la valeur politique des théorie déconstructionniste qu'il a conçue quelques décennies plus tard, à tout le moins aux yeux d'une partie de la critique littéraire, le débat avait été très important. Paul de Man, comme Pollan, place son attention sur les faits de langage et insiste sur la manière dont le sens se trouve constamment différé, indéterminable une fois pour toutes. Cette attention sur un langage refermé sur lui-même, étudié en vase clos et à travers et en écartant ses conséquences sur le monde, aurait permis aux yeux de certains les errements politiques de l'auteur. En parallèle, Mild rappelle la position controversée de Pollan après la Deuxième Guerre mondiale. Sans reprendre ici les termes de ce débat complexe, rappelons qu'il refuse alors de condamner les écrivains collaborationnistes, bien qu'il se soit illustré par son courage dans la résistance. Son appel à l'indulgence, entre autres dans son essai « De la paille et du grain », et sa manière en apparence désinvolte de traiter les écrits collaborationnistes ont aussi été jugés comme une manière de minimiser le poids des mots, des lettres et de leur dénier une puissance d'action réelle dans le monde. Les paradoxes et énigmes cumulés dans « De la paille et du grain » ont à ce sujet fourni bien des munitions à ses adversaires. Dans la France byzantine, Benda affirmait que le type d'écriture adopté par Pollan et surtout par les tenants de la littérature pure était en partie motivé par une haine de la démocratie. Il me semble au contraire que l'écriture de Pollan, sa méta-rhétorique, en est une qui réfléchit à ce que signifie « agir et persuader en régime démocratique ». Elle évoque pour moi la lettre errante de Jacques Rancière et ses mauvais lecteurs résultant de la démocratie décrits dans Politique de la littérature. Comment construire une rhétorique dans un monde sans auditoire fixe, déterminé, et comment contrôler ses effets? Aucune rhétorique n'y fait plus rien. Rien alors ne semble plus saugrenu et impossible que la maintenance proposée par Pollan, celle de parvenir à un accord global sur le langage qui comprenne tous et chacun et non quelques happy few. Les effets des écrits et des mots sont imprévisibles, le sens tout comme l'intentionnalité de l'auteur demeure problématique, sujet à des variations infinies, sans que la question de la sincérité de l'appel à l'autre puisse jamais être résolue. Or, le sens commun de Pollan en est un qui a comme présupposé l'égalité des intelligences, l'égalité des voix, dans leur unicité comme dans leur redoublement, devant les difficultés posées tant par les lettres que par la cité. Comme repoussoir à ce qu'il propose, Pollan décrit un dialogue utopique entre auteur et lecteur terroriste, un dialogue dans lequel le lecteur se transformerait progressivement en, je cite, « la réplique et l'image de cet écrivain le plus fidèle qui se puisse. Tout se passerait à la fin entre deux, comme s'il n'y avait pas eu de langage. » À l'opposé, la rhétorique de Pollan met l'accent sur la matérialité des mots, sur leur présence et sur l'opacité qu'ils traînent toujours avec eux, même lorsqu'ils paraissent transparents. Le mode d'énonciation des fleurs de Tarbes, qui multiplie les voix paradoxales, force à s'interroger « qui parle ?» Ce qui est énoncé est constamment aboli, déconstruit, contrairement à la limpidité annoncée par Pollan lorsqu'il évoque la clarté perdue des rhétoriqueurs. Sa rhétorique, à lui, refuse un pouvoir d'assertion déterminé pour laisser le lecteur s'interroger sur l'événement auquel il vient d'assister, les difficultés auxquelles il se bute durant sa lecture empêchant toute conclusion hâtive. Je ne souhaite pas ici prétendre que Pollan n'use pas de force persuasive, n'est pas conscient de ses artifices et de ses très nombreuses ruses. Son écriture est entièrement traversée par cette ambivalence autour des jeux de pouvoir. Il ne m'en apparaît pas moins qu'en laissant au lecteur le soin de tirer un sens de ce qui s'est produit devant lui, Il multiplie consciemment les avenues interprétatives que peut emprunter le lecteur. La rhétorique de Pollan dans Les fleurs de Tarbes prend appui sur un mystère qui ne sert à rien de chercher à dissiper une fois pour toutes, un mystère non pas construit autour d'un vide, mais d'une multitude de possibles autour desquels le lecteur est convié à engager sa liberté de penser. Merci.